France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Et c'est reparti pour un tour. On a cru, au sortir des années 90, que la mode des mannequins faméliques c'était fini, en tout cas qu'on pouvait s'affirmer comme une femme avec les rondeurs qui vont avec. On voyait sur les podiums apparaître des mannequins plus size, des agences de mannequins avaient fait, ou en tout cas en partie, leur autocritique et leur préférence pour les mannequins très très jeunes et très très minces descendait. Les magazines de mode avaient aussi donné le sentiment de remiser un peu leur Photoshop pour montrer des femmes normales. Normales en France, en Europe d'une manière générale, juste pour rappel, c'est une taille autour de 42. Et puis donc, c'est comme si cette période de body positive avait disparu aussi vite qu'elle était apparue. Le retour à la mode skinny, et même pire, skinny comme vraiment maigre, et la tendance TikTok du moment, Skinny Tok, s'accompagne de photos de jeunes filles dont on voit dépasser les os, avec parfois des phrases absolument terrifiantes du genre « tu n'es pas moche, t'es juste grosse ». Les mêmes qui se montrent dans des tailles de fillettes de 12 ans suggèrent de manger des glaçons. Sérieusement, c'est vrai qu'un glaçon, c'est pas très calorique. Quel retour en arrière et quelles conséquences sur les jeunes filles, en majorité des jeunes filles de 13 à 16 ans qui plongent dans l'anorexie pour pouvoir ressembler, entre autres en tout cas, à ces modèles de zombies sur papier glacé. C'est difficile d'avoir 13 ou 16 ans parfois, et quel danger surtout. Après, et on y viendra aussi, l'injonction à la minceur ne s'arrête pas là. On est passé aussi à la mode Ozempic, la pilule contre le diabète qu'on détourne pour en faire un produit minceur. En France, heureusement, on est vigilant. L'Ozempic n'est prescrit qu'aux obèses réellement en danger. Mais on l'a bien vu sur les podiums. Souvenez-vous de ce t-shirt « I love Ozempic ». Et les Américaines, autour de 50 ans, en sont dingues. Oprah Winfrey, la première, revendique d'avoir enfin maigri grâce à la pilule miracle. Et là non plus, peut-être que ça n'aide pas les plus jeunes ou les moins jeunes. Le diktat de la minceur est-il de retour? Était-il d'ailleurs vraiment parti? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et donc Mathilde, la première, c'est vous. Vous êtes la bienvenue. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
On vous écoute. Oula, attendez Mathilde, bougez un petit peu parce que vous hachez beaucoup, c'est dommage parce que votre témoignage est joli. On a vraiment envie de vous entendre. Allez-y pour voir.
Oui, vous m'entendez?
Ouais, mieux, allez-y.
Je m'appelle Mathilde, j'ai 16 ans et je suis tombée dans l'anorexie extrême à mes 14 ans. J'ai dû me faire hospitaliser d'urgence pendant un an. Et lorsque j'ai commencé à reprendre goût à la vie, que j'ai pu enfin sortir de l'hôpital, mes parents m'ont parlé d'une pétition contre Skinny Tok. J'étais dans l'incompréhension totale. Je comprenais pas comment on pouvait encourager une telle souffrance, parce que je l'avais vécue. Et c'était pas seulement une souffrance pour les victimes, mais aussi pour les proches. Il faut pas oublier que l'anorexie, c'est la maladie mentale la plus mortelle au monde. Moi, j'ai failli ne pas m'en sortir. Et maintenant, je suis heureuse aujourd'hui. J'ai pu reprendre goût à la vie. Et je voulais dire à toutes les personnes qui souffrent de cette maladie que c'est très dur, très long, mais qu'on finit par s'en sortir. Et quand on reprend goût à la vie, c'est vraiment merveilleux.
Merci beaucoup Mathilde pour le joli témoignage. J'aime bien le goût à la vie. Ça dit aussi beaucoup de choses quand on est capable de prononcer ces mots-là. Mathilde, j'ai juste une petite question pour vous. Est-ce que vous dites parfois que typiquement ce genre de choses, le skinny tox, ça peut vous faire replonger? Est-ce que vous avez ce genre de crainte? Est-ce que quand on est sorti de là où on est sorti comme vous, on s'en éloigne parce que cette fragilité fait que il suffit parfois d'une image comme celle-là pour que ça redevienne difficile?
Moi, j'ai subi beaucoup de rechutes avec des photos retouchées sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc, je sais que on peut très vite tomber dans l'anorexie à cause de tous les réseaux sociaux, de toutes les photos retouchées, de toutes les phrases.
Ça veut dire vous savez vous en tenir éloigné maintenant, de ce que je comprends, Mathilde.
Oui.
Eh ben on est ravis pour vous, on vous souhaite vraiment le meilleur, merci beaucoup, puis merci d'avoir appelé au téléphone sonne pour nous en parler, pour discuter ensemble autour de ces sujets. Il y a Katel Pouliken, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice des rédactions du mensuel Marie-Claire. Il y a Marie-Rose Moreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pédopsychiatre, vous êtes chef de service à la maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris, la maison de Solène. Marie-Rose Moreau, vous en connaissez plein des Mathilde comme celle qu'on vient d'entendre.
Oui, mais Mathilde le dit bien. Mmh. Hein. Elle dit que c'est une souffrance. Elle a même utilisé le mot maladie mentale. Mmh. Souvent, elle parle de souffrance, mais bon, c'est, tout ça, c'est la même chose, hein, de souffrance psychologique. Elle a dit aussi que c'était long, et qu'on pouvait en sortir.
Elle a dit qu'il y avait des rechutes, mais qu'il fallait se réaccrocher derrière.
Voilà, et elle a dit aussi que c'était une maladie mortelle. Et ça, je crois que c'est très important de se souvenir que la souffrance est telle dans l'anorexie mentale qu'on ne voit pas, on se pose des questions à l'infini, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, on ne se voit pas telles qu'on est. Et c'est quelque chose qui obstrue complètement l'avenir. Quoi, des jeunes filles en majorité. Hein. Mmh. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important. Mais elle le dit très bien, Mathilde, vraiment, ces mots sont précis. C'est une souffrance psychique globale. Mmh. Et le corps souffre énormément, tout souffre, mais c'est l'ensemble de ce qu'on est. Et ça, je crois que c'est quelque chose. Mais c'est important de se souvenir, mais c'est aussi important de se souvenir qu'on peut la soigner, qu'on doit la soigner et que ça marche.
Et ça part de loin, évidemment. Évidemment, quand on tombe, comme elle le dit lui-même, Mathilde, dans l'anorexie, mais ce qu'elle dit, elle le dit, on sent bien qu'il n'y a pas que ça, mais elle dit aussi, quand on a cette fragilité-là, en effet, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on entend, les challenges à la TikTok peuvent jouer un rôle. Est-ce que vous le voyez, vous, dans votre pratique, Marie-Rose Moreau? Est-ce que c'est plus difficile pour ça? On est d'accord que c'est jamais le premier symptôme, on est d'accord avec ça, mais est-ce que c'est un facteur de rechute, par exemple, ce genre de choses? Ou peut-être que ça aide, parce que ce que dit Mathilde aussi, au fond, c'est qu'elle a cette capacité aujourd'hui à dire, moi, quand je vois ça, je tombe de ma chaise, quoi.
Oui, et puis, elle dit aussi qu'il faut se protéger de ça. C'est-à-dire que plus on est vulnérable, plus on a traversé des moments difficiles, plus l'influence de ces échos, parce que finalement ça amplifie des choses qui sont dans la société, qui sont partout, qui sont à l'école, qui sont dans les journaux, mais dans la société en réalité. Et donc plus on est vulnérable, plus on est touché par ces réseaux sociaux. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui créent tout seuls, ils amplifient. Mmh. Et ils, effectivement, moi ce que je vois aussi à la maison de Solène, c'est que les adolescentes en apprenant, en guérissant, en allant mieux, elles apprennent à se protéger de ça. Mais quand elles arrivent, elles sont souvent sous l'emprise, oui.
Katel Pouliken, je disais tout à l'heure en introduction que il y a eu cette période où on a lutté contre les mannequins extrêmement maigres, etc. La période des années 90, les Kate Moss, etc. Et puis on a l'impression qu'on est revenu totalement en arrière. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là, vous, que
oui, absolument. On a ce sentiment qui est plus qu'un sentiment, puisqu'on peut le
réalité,
mesurer.
Ouais.
Exactement. Je prends pour exemple les derniers défilés, par exemple en février-mars dernier. Je vais même vous donner un chiffre puisque j'ai regardé un petit peu. Il y a 21% des marques qui ont montré ce qu'on appelle un mannequin plus size, curvy. Donc c'est plus qu'une taille 44 lors des derniers défilés. 21%, c'est 16%. De moins que la Fashion Week précédente, c'est-à-dire septembre dernier. Et si on se concentre sur Paris, seulement 3 maisons françaises ont montré un mannequin curvy. Or, Paris reste la capitale de la mode. Mmh. Paris donne le la, et donc il faut dire que là-dessus, on n'a pas tellement donné l'exemple. Donc oui, on peut assister, on assiste à une forme de recul sur ce sujet.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Comment se fait-il? Alors, on a essayé d'imposer le modèle de la girl next door qui fait du 42 et qui servirait de modèle. On s'est fourvoyé là-dessus, on a cru que ça marcherait.
On s'est sans doute fourvoyé, on a cru que c'était fini, enfin que c'était assez simple à résoudre. Et c'est vrai qu'il y a des modèles, des contre-modèles, malheureusement, qui émerge à nouveau très fortement, notamment d'Hollywood, vous en avez un peu parlé dans votre introduction.
Ouais.
Un culte de la minceur extrême, voire de la maigreur. Au cinéma, j'ai vu émerger là aussi, par exemple, on a vu des comédiennes très connues, hein, je pense à Nicole Kidman, Demi Moore, Angelina Jolie, qu'on appelle parfois les plus de 50 ans, moins de 50 kilos.
Ouais, absolument, ouais.
Ces femmes, forcément, elles peuvent avoir une influence extrêmement forte sur des très jeunes filles, comme le disait Marie-Rose Moreau, en construction, vulnérables.
Mais
c'est un ensemble d'images, un faisceau d'images qui peut contribuer à banaliser cette maigreur extrême.
Moi, je trouve ça intéressant, Marie-Rose Moreau, parce que bien sûr que les modèles des Mathilde qui ont 14 ou 16 ans, c'est pas forcément Nicole Kidman ou Demi Moore. Mais ce que ça dit, c'est que même à cet âge-là, en fait, à chaque fois qu'il y a une image de femme qui est renvoyée à ces jeunes filles-là, cette image de femme doit absolument être ultra mince, et quel que soit l'âge, au fond. Et ça aussi, j'imagine que même inconsciemment, ça leur tape à l'esprit, non ?
Oui, alors je ne suis même pas sûre que ce soit inconscient. En tous les cas, c'est assez explicite. Elles disent combien c'est une question de l'ensemble de la société, de l'ensemble des femmes, de l'ensemble des familles, en fait. C'est pas quelque chose qui leur appartient. Et d'ailleurs, en propre, même si elles... parfois surprise de voir qu'elles peuvent s'approprier des choses des générations d'avant. Ce qui montre que c'est pas un problème uniquement de construction identitaire des adolescents, mais que c'est plus une sorte de question de société, c'est-à-dire quelle est la place du corps dans la société et du corps tel qu'il est, du corps...
Dans la pop culture.
Dans la pop culture, dans les arts, dans les canons de beauté, etc.
Et puis les modèles, enfin quels sont les modèles qui aujourd'hui ont un corps dit normal, on n'en sait rien. On va avoir un témoignage un peu similaire, c'est celui de Sophie. Bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, c'est de votre fille dont vous voulez nous parler.
Exactement, oui. Ma fille, qui a 16 ans et demi, et il y a 3 ans, vers 14 ans, elle a commencé à sombrer dans l'anorexie. Alors, je ne pense pas qu'elle ait été influencée au début par les réseaux sociaux ou le diktat de la mode. En revanche, dès qu'elle a commencé à sombrer, parce que là, c'est vraiment la descente aux enfers, je sais qu'elle suivait, alors j'ai essayé de l'interdire, mais je sais qu'elle suivait ces groupes, notamment Anna, Pro-Anna, avec notamment des petits conseils, on mesurait l'espace intercuisse, bien sûr, faut pas que les cuisses se touchent. Elle était incollable sur le nombre de calories, donc il y a des sites où ils font des listes et qui calculent le nombre de calories, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, alors même jusqu'aux médicaments, certains médicaments qu'on leur demande de prendre, qui ont pourtant qui font une calorie, mais enfin c'était devenu complètement fou, avec beaucoup de photos, des photos d'elles soi-disant en train d'aller mieux, d'essayer d'aller mieux, mais qui mettent en avant des corps qui sont, alors je vais pas juger, c'est terrible, mais des corps qui sont malades, et comme elles souffrent de dysmorphophobie, elle voit pas que ses corps sont malades, elle voit pas que leur corps est malade. Voilà. Et si je puis juste me permettre deux petites choses, lorsque l'on voit que son enfant, et je pense que c'est difficile parce que la société actuelle, on nous dit mais non, ça va, elle est maigre, c'est bien, elle veut maigrir. Non, c'est une vraie maladie. Il faut s'entourer au plus vite de l'hôpital le plus près de chez vous. Et à côté de ça, moi qui suis très ronde, et pour autant ma fille m'a toujours trouvé magnifique, elle a jamais trouvé que moi ça posait problème, ce qui est vraiment très très excusez-moi, je suis émue, mais
je vous
très
en prie.
Ouais,
merci beaucoup, merci pour votre témoignage, vraiment. Rappelez-moi Sophie, comment s'appelle le compte que suit votre fille dont vous parliez?
Alors, ce n'était pas des comptes, elle suivait plein de jeunes filles, je ne saurais pas vous dire les noms, parce que là, malheureusement, ma fille est hospitalisée, là en plus, elle n'est pas à côté de moi, mais il y avait des noms. Alors, c'était Pro-Anna.
Ah, c'est ça, voilà, c'était ça que je voulais vous entendre dire, parce que, alors effectivement, merci beaucoup, Sophie, on souhaite plein de bonnes choses à votre fille, évidemment, et merci beaucoup pour votre témoignage. Je voulais le faire répéter, parce que moi, j'avoue que je ne connaissais pas, mais je vous ai vu réagir toutes les deux en même temps, tout le monde sait ce que c'est que les sites Pro-Anna, pro-anorexie.
Ça ça fait l'apologie, mais on le sait, il y a toujours eu en plus des mouvements comme ça qui changent en fonction un peu des générations, parce que moi ça fait 30 ans que je m'occupe des jeunes filles et des garçons, mais sur cette question c'est beaucoup des jeunes filles, et en fait il y a des formes qui reviennent, qui changent, mais c'est toujours l'apologie d'un corps mince, ferme, maîtrisé, je trouve que Sophie le disait aussi très bien, derrière il y a une souffrance globale. C'est pas simplement une image qui est en jeu. C'est la souffrance et la forme que ça prend dans une société donnée.
Je vous ai vu réagir vous aussi, parce que vous aussi, vous connaissez ça par cœur.
Oui, c'est en fait, c'était les blogs à l'époque, il y a environ 20 ans, il y avait beaucoup de blogs pro-Anna comme ça. Est-ce qu'on, retrouve de commun avec cette tendance skinny toc, et ce qui est extrêmement dangereux, c'est que c'est présenté souvent sous couvert d'une motivation. En gros, motivez-vous, il y a des espèces de pseudo-mantras comme ça qui sont extrêmement dangereux, grossophobes évidemment, culpabilisants, dévalorisants, et avec parfois le hashtag aussi motivation. Donc sous-entendu, si t'as de la force de caractère, tu vas pouvoir réussir à maigrir en faisant des défis, des challenges qui sont évidemment délétères et voire même mortels.
Voilà, regardez, on a des messages qui tombent, on a Thomas qui dit ceci, bonjour, mais que les grandes marques donnent l'exemple. Les pantalons, par exemple, existent très rarement en taille 46 et même 44, sans même aller donc jusqu'aux excès liés à l'obésité, notamment. Et il a raison. On a toutes fait l'expérience à un moment dans un magasin où, quand on demande un 42, il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, c'est très culpabilisant. En fait, bêtement culpabilisant, on va dire.
Exactement. Oui. Il y a les images, il y a les publicités, il y a les campagnes de pub, les défilés, mais il y a aussi la réalité de l'industrie et la réalité en boutique, en magasin. Et effectivement, de nombreuses marques passées 38-40, finalement, ne répondent pas présent. Donc oui, il y a un examen de conscience collectif qui reste à faire.
Oui, et qui, visiblement, n'a encore jamais été fait. Voici Alix, qui est avec nous. Bonsoir, Alix.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Alix.
Eh bien, voilà, moi, je suis éducateur sportif et coach sportif de cours collectif. J'ai arrêté d'encadrer dans des salles de fitness de par cette mentalité de paraître et de absolue beauté sur la maigreur. Je trouve ça assez malsain. Aujourd'hui, je donne des cours que dans des cours associatifs, mais malgré tout, je me rends compte que 80% de mon public a cet objectif-là unique de maigrir, que ça soit à l'extrême ou non. C'est assez délicat et j'ai surtout eu toujours le constat que moi j'ai toujours eu quelques formes, je fais un taille 44 aujourd'hui que je vis très bien, et ben j'aurais toujours été considérée comme une potentielle mauvaise coach, parce que c'est pas normal d'être avec de légères rondeurs quand on fait ce travail.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Alix. Vous Marie-Rose Moreau, vous luttez contre tellement de choses quand on y songe, en fait. Toutes vos petites patientes sont cernées, en fait. Et voyez, je pense à Alix Pauvrette, qui est coach sportive, à d'autres dans les magasins. Quand on commence à aller mal, on est cerné, quoi. On est cerné.
Oui, mais alors, parce qu'en plus, il faut le dire clairement, l'anorexie mentale, c'est une souffrance globale et c'est une souffrance très, très, très profonde. D'ailleurs, quand elles essayent de maîtriser ce qu'elles mangent, comment elles sont, etc. C'est parce que tout leur échappe et qu'elles sont dans une souffrance absolue. Et c'est vrai qu'à cette période-là, elles sont très poreuses. Mm-hmm. Donc tout ce qu'elles, effectivement, le coach comme le magasin ou l'image, tout compte à ce moment-là. Mais c'est cette globalité-là, c'est important parce que il faut qu'on, pour pouvoir bien lutter contre l'anorexie mentale, il ne faut pas la réduire à la tyrannie d'une image ou d'un réseau social, mais à une souffrance globale et à la nécessité de s'occuper de tout en même temps, de toute la vie de ces jeunes filles. Et on parle des 14 à 16 ans, mais je souligne que l'anorexie ces derniers temps, elle a rajeuni, et que donc on appelle ça l'anorexie prépubère, et ça commence autour de 9-10 ans.
Et on la traîne toute sa vie parfois. Hein. Par ailleurs, on a aussi un message d'une dame qui nous dit, moi ça fait 30 ans que je lutte contre ça. On parlait des mots tout à l'heure, et ça aussi, les mots qu'on entend, je disais que sur Skinny Talk notamment, il y a « non mais t'es pas moche, mais t'es grosse », tout simplement, on a un message ici d'une auditrice qui nous dit que sa fille va très très bien, enfin une jolie petite fille, il y a zéro souci, mais qu'elle a beau lui dire elle, qu'elle la trouve très jolie et que tout va bien, ça elle ne l'entend pas. La seule chose qu'elle entend, c'est ce que dit la cour de l'école, par exemple, et ce que disent les camarades de classe.
Mais ça c'est important, de la question du groupe et du regard des autres, parce que c'est l'apprentissage. On a parlé de l'importance de son corps et d'être bien dans son corps et d'être content avec son corps, mais il y a aussi comment l'autre me voit dans la cour. Les adolescents et même très jeunes adolescents, et ça existe même déjà à l'école primaire, ils sont très sensibles à cette question sociale du regard de l'autre. Mmh. Je me construis avec l'autre, avec ce qu'il dit de moi, avec ce qu'il pense de moi, avec la manière dont il m'envie, etc. Et donc, toutes ces relations sociales qui constituent l'identité de nos enfants et de nos adolescents, elles sont très importantes au niveau collectif. Et donc, effectivement, ça se joue aussi dans ce groupe-là. Et c'est aussi pour ça que les réseaux sociaux ont tant d'impact, parce qu'ils augmentent le groupe, ils ouvrent le groupe.
Et Katel Pouliken, est-ce que vous avez changé des choses, vous, sur lesquelles vous n'êtes pas revenu en arrière,
oui,
notamment en termes de photoshopage,
oui,
etc.
Et en termes de choix de mannequin de couverture, de personnalité de couverture, je vous ai apporté là un exemplaire et qui fait écho tout à fait à ce que disait Alix tout à l'heure. On avait fait il y a quelque temps une couverture avec une mannequin magnifique qui fait un bon 44, et c'était un numéro sur le sport, mental, corps, anti-âge, le sport clé de notre équilibre. Il se trouve que la mannequin était ronde, on l'a pas spécifié sur la couverture, et c'était pour bousculer là aussi les représentations et montrer que on pouvait assumer un très beau corps, se trouver belle, sans forcément faire une taille 36-38. Pour répondre plus précisément à votre question, pas de mannequin trop maigre, pas de mannequin trop jeune, et une attention particulière aux représentations en général qu'on véhicule, puisqu'on a une très grande responsabilité, montrer des femmes de différents âges, de différentes carnations et de différentes corpulences.
Quand vous faites une de ce type-là, est-ce que vous recevez du courrier et est-ce que le courrier dit bravo, elle est magnifique,
oui,
ou est-ce que le courrier dit c'est qui cette grosse à la une de Marie-Claire?
Alors, enfin, non, figurez-vous que ça a bousculé un petit peu, mais l'écho sur les réseaux sociaux pour parler de cela a été extrêmement positif. On a reçu beaucoup de messages nous remerciant, nous félicitant aussi, et vraiment de femmes qui disaient enfin, j'avais eu un message, je me souviens d'une lectrice, enfin mon ventre en couverture de Marie-Claire.
Et ce qui est fou, c'est que moi j'aimerais bien comprendre ça, on va retourner au standard juste après. Vous faites une de ce type-là et on vous remercie. On entend toutes les femmes, donc, particulièrement qui téléphonent ou qui sont là à nous envoyer des messages et qui disent, mais enfin, comment c'est possible qu'on soit tant revenu en arrière? Qu'est-ce qui se passe pour que l'industrie de la mode ne veuille pas voir ça, ne le voit pas, imagine effectivement que ces pantalons n'iront qu'à une taille 38 grand max et après, de toute façon, ce sera moche, donc on ne le fait même pas. Qu'est-ce qui fait que ce différentiel entre l'industrie de la mode et nous ne se comble pas?
Alors, je pense qu'il y a des initiatives, heureusement. Il y a des créateurs, et notamment parmi les jeunes générations qui émergent, qui sont bien davantage sensibles à ces sujets-là. Je pense à un duo, par exemple, qui s'appelle Esther Manas, de Parisiens, de créateurs, non, ils sont belges, pardon, qui sont extrêmement, vraiment, qui bousculent beaucoup sur ces questions-là et qui font beaucoup de bien, justement, dans le milieu de la mode. Mais c'est vrai qu'il y a encore des résistances et il y a encore beaucoup de chemin à parcours des créateurs qui, pour certains, ne voient pas la réalité des femmes, en fait. Ils ont une image fantasmée encore, pour certains d'entre eux. J'ai de l'espoir dans les générations qui arrivent.
Ben, écoutez, oui, j'espère qu'on ne reviendra pas effectivement à nouveau en arrière. Moi, j'ai l'impression que tous les 10 ans, à nouveau, bis repetitas et rebelote, oui, au corps, d'ailleurs, quand je dis plus size, un peu, et quand je dis un peu, 42, 44, 46, enfin ah, mince, enfin, je veux dire, c'est pas non plus la mort du petit cheval, comme disait ma mère. Enfin, on est en train de parler de diktat du corps et de ce retour de diktat du corps dans le téléphone sonne ce soir avec Katel Pouliken, qui est directrice des rédactions du Mans Marie-Claire, avec Marie-Rose Moreau qui est pédopsychiatre, chef de service à la maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris, la maison de Solène. Et avec vous, Taïna, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Taïna. Vous êtes créatrice de contenu. On vous trouve sur Instagram. D'ailleurs, les gens qui vous cherchent vous trouvent à taïna.csg. Vous le dites d'ailleurs, hein, vous avez souffert vous aussi de troubles alimentaires. Aujourd'hui, vous avez 30 ans, vous allez mieux. Vous vous définissez quand, oui, même toujours comme anorexique, au fond, comme s'il y avait toujours quelque chose au fond de vous qui montrait cette fragilité. Moi, je voudrais savoir, quand on est quelqu'un comme vous, comment on le reçoit, cette histoire de skinny talk? Est-ce que ça vous inspire?
Alors oui, comme vous le dites, malheureusement, ce n'est pas tout à fait derrière moi. Ça fait encore partie de mon quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai 30 ans et ça fait presque 20 ans. Et en fait, le problème avec le skinny talk, moi déjà, ça me renvoie à mes années de collège et lycée où bah, y avait Tumblr, il y avait les Proana, il y avait le petit bracelet rouge qu'on portait pour se reconnaître entre nous. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais en fait, le problème avec TikTok, c'est que c'est on va dire que c'est vendu sous une forme très attirante. Les montages, ils sont soignés, les musiques, elles sont cool, le message semble positif. C'est des « qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» des morning routines très disciplinées. Et en fait, quand on regarde tout ça, on a l'impression que c'est de l'inspiration, que c'est des belles intentions, mais finalement, c'est hyper malsain. En fait, ça cache un message qui est absolument horrible. Et le problème, c'est que TikTok, avec son algorithme, il accentue ça. À partir du moment où on tombe sur une vidéo comme ça, la plateforme, elle en propose plein d'autres similaires. Et on se retrouve en fait très vite dans un univers où la minceur, elle devient une obsession, où tout ton algorithme tourne autour de ça. Moi, j'en suis venue là à désactiver mon application parce que j'ai que ça. Et encore aujourd'hui, à 30 ans, je vais mieux. Ça me touche personnellement, ça me fait du mal.
Ouais, quand vous voyez ces choses-là, vous, est-ce que ça vous bouscule au point d'interroger d'ailleurs votre propre comportement, Taïna, ou pas?
Alors oui, moi ça me heurte. J'en viens de nouveau à me comparer, à culpabiliser sur certains aliments, sur certains comportements que je vais avoir, sur des aliments que moi j'avais complètement évincés de ma vie et que j'ai réintroduit après des années de combat. Et en fait, quand je vois des nanas dire non, surtout mais pas de sauce dans telle salade, je me dis waouh, mais moi j'ai entendu cette phrase quand j'avais 15 ans et aujourd'hui j'arrive toujours pas à le faire. Et en fait, je me dis mais heureusement que je ne suis pas née à cette période, heureusement que je n'ai pas accès à tout ça, parce que ça aurait aggravé mon cas, clairement.
Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez un rôle à jouer, vous, pardon, je vais y mettre plein de guillemets, Taïna, les vieilles
bien
influenceuses,
sûr.
Pardon.
Oui, bien sûr, non, mais c'est
en tout cas, celles qui sont chevronnées, qui sont là depuis longtemps, qui sont passées aussi par des moments qui ne sont pas drôles comme vous, vous avez forcément un rôle à jouer. Qu'est-ce qu'il peut être, à votre avis?
Alors, effectivement, moi, je pense que les créateurs et aussi les plateformes, on a une vraie responsabilité. Moi, je suis pas là pour accuser ou quoi que ce soit les autres créateurs, mais juste pour faire réfléchir à ce qu'on partage et surtout à l'impact que ça peut avoir sur les autres et en particulier pour les personnes les plus vulnérables. On ne sait pas forcément qui nous suit, qui regarde ce qu'on lit. Et en fait, tout ce qu'on dit, ça peut vraiment abîmer les gens, ça peut réveiller des troubles, ça peut les faire culpabiliser, s'isoler. Et en fait, souvent, en plus, au début, personne ne s'en rend compte. Et le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment important d'en parler. On ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Ce n'est pas possible. Là, le retour du skinny talk, parce qu'en réalité, il n'a jamais vraiment disparu. C'est là, je ne sais pas pourquoi, il est poussé par la plateforme, notamment en France. Et ça vient quand même des États-Unis. Et en fait, vraiment, ça peut faire du mal. Profondément.
Et en effet, on ne sait jamais pourquoi ce genre de choses sont poussées par la plateforme. Ce qu'on sait aussi, c'est que sur un réseau social comme TikTok, il suffit de passer un quart de seconde sur quelque chose pour que l'algorithme l'ait compris et que ça reparte dans le même sens. Donc effectivement, Taïna, vous savez échapper à l'algorithme, en fait, parce que vous savez, un moment, couper ce que d'autres, évidemment, ne savent pas faire. Est-ce que vous en avez parlé entre vous ou pas, influenceuse? Je ne sais pas si vous... Évidemment, vous ne vous connaissez pas toutes, hein, mais parler entre vous, est-ce qu'il y a, sur votre page, par exemple, un moment, quelque chose dont vous vous dites je vais m'en emparer pour les plus jeunes qui me suivent, même si, comme vous le dites, on ne sait jamais trop qui nous suit, mais au moins si ça peut toucher deux personnes, ce sera déjà ça, non?
Alors moi j'en parle beaucoup, j'ai un canal qui est dédié à ça sur Instagram. C'est un outil qui permet de pousser une conversation en fait avec plein de gens qui nous suivent de façon anonyme. Donc moi je partage un peu mon vécu dessus, j'en parle énormément, mais c'est vrai que je sais qu'il y a quelque chose que je voulais vraiment souligner, et encore aujourd'hui quelqu'un m'en a parlé, les contenus qu'on voit sur le skinny talk, etc., ils ne sont pas dangereux uniquement pour les adolescentes. Pardon. Donc, les femmes de mon âge, de 30 ans, 40 ans, 50 ans, surtout les jeunes mamans qui viennent d'accoucher, elles sont aussi des victimes de ça. Et c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je vois on va dire, entre guillemets, mes collègues de l'influence. Bah, j'ai pas vu grand monde en parler. Notamment dans ma niche, entre guillemets, puisque moi, je suis ce qu'on appelle une influenceuse lifestyle, mode. En fait, j'ai l'impression que tout le monde ferme les yeux dessus. Et que les seules personnes qui vraiment en parlent, c'est celle qui, depuis longtemps, parle de santé mentale, etc. Mais j'ai l'impression qu'on fait comme si tout ça était normal. Et les seules personnes avec qui j'en parle vraiment, moi, c'est mon entourage proche, parce que pour le coup, j'ai plein de copines de tous les poids qui sont vraiment impactées par le skinny talk. Et pourtant, elles ont mon âge, on a 30 ans. Et en fait, on est autant victime qu'une jeune fille qui, bien sûr, sera plus vulnérable, ou qu'un jeune homme aussi, hein, parce qu'il y a aussi des hommes, qui, surtout avec l'orthorexie, etc., qui sont victimes de tout ça.
Il y a des jeunes hommes qui sont victimes, et puis il y a aussi quand on est à un âge où tout commence dans la vie, où si même un jeune homme imagine que le corps d'une femme doit être ça, ça me permet, ça fait un effet qui peut être extrêmement dangereux aussi. Taïna, merci beaucoup, merci pour votre discours, et merci de ce témoignage. Il y a des mots dans ce que dit Taïna, Marie-Rose Moreau, j'ai entendu le mot « combat », j'ai entendu le mot « culpabiliser »,
c'est des mots forts,
c'est des mots forts.
Je crois qu'ils sont justes, et elle a dit aussi que c'est une question qui se posait à tous les âges. On voit même apparaître, par exemple, l'anorexie au moment de la ménopause aujourd'hui.
Je peux comprendre d'ailleurs, parce que c'est compliqué de perdre des kilos à ce moment-là, parce que le corps est devenu beaucoup plus difficile à manier, et du coup on se fait du mal.
Mais ce que je pense, moi, d'être un peu plus spécifique aux adolescents, parce que tout ça, effectivement, ça apparaît, Taïna a tout à fait raison, à tous les âges, mais il y a quelque chose qui me semble spécifique pour les adolescentes, en particulier, c'est que c'est la question du genre, c'est le moment où on se dit, mais ça veut dire quoi pour moi être une femme? Qu'est-ce que c'est? Et à ce moment-là, c'est là où je pense qu'on est profondément réactionnaire, y compris sur la place des hommes et des femmes dans la société, c'est qu'à ce moment-là, la question de canon de beauté peut encore être quelque chose qui touche en particulier les plus vulnérables, celles qui se posent le plus de questions, celles qui sont le plus en difficulté. Mais c'est aussi vrai pour les garçons, qui eux aussi se posent des questions d'identité de genre. Qu'est-ce que c'est qu'un garçon aujourd'hui? Donc je pense que ça, c'est un élément un peu plus spécifique aux très jeunes. Mais sinon, tout le reste apparaît à tous les âges, oui.
Et je pense que la responsabilité des plateformes se pose en effet, puisque Taïna en parlait très bien aussi, de cet enfermement dans les algorithmes. À partir du moment où vous regardez un contenu de ce genre, voire que vous le likez pour montrer peut-être votre soutien à une jeune femme qui souffre d'anorexie, vous basculez finalement dans une bulle algorithmique où la plateforme spontanément va vous proposer X contenus de ce genre et qui finissent par vous enfermer littéralement. Donc c'est vrai qu'il faut poser aux plateformes la question de leur responsabilité. Je crois qu'il y a une commission d'une trentaine de députés qui va rendre ses conclusions en septembre sur le sujet. L'Australie a banni TikTok, par exemple, pour les moins de 16 ans. C'est peut-être une solution intéressante, parce que même si Taïna a dit que ça peut concerner des femmes à tous les âges, en effet, les plus vulnérables restent sans doute les toutes jeunes filles à peine projetées dans l'univers de l'adolescence.
Et j'ai entendu aussi ce qu'elle disait, effectivement, sur les 40, les 50 ans, ce que vous disiez aussi sur les femmes après la ménopause. Voici aussi Anne qui est là. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, moi je voulais juste témoigner sur le fait que j'étais une femme ronde. Alors moi je suis de la catégorie des 60 ans, j'ai toujours été ronde. Et puis on a découvert chez moi il y a 3 ans une maladie chronique qui fait que j'ai énormément maigri. J'ai perdu une vingtaine de kilos, c'était pendant l'été, en 2 mois. Et quand je suis retournée travailler, ça a été un défilé de mes collègues
qui vous ont félicité.
Qui m'ont demandé quel était mon régime alimentaire. Or, j'étais malade, je pesais moins de 45 kilos et je faisais peur.
Et vous les avez pris vos kilos, Anne, ou pas?
Non, parce que c'est une maladie qui fait que je ne fixe plus les graisses, donc je suis restée extrêmement maigre. Mais tout le monde me félicite encore aujourd'hui. Hein. J'ai encore beaucoup de félicitations parce que je rentre dans un 36.
Mais du coup, il faut quoi que vous vous disiez? Alors, ça a un côté complètement surréaliste, j'imagine, cette scène où vous dites non, en fait, je suis malade. C'est complètement dingue, en fait, quand on y songe.
C'est complètement fou. Moi, j'ai vu des photos de moi cet été-là parce que j'étais un peu dans le déni. Je fais peur. Je fais peur par la maigreur, c'est-à-dire qu'en plus, comme je suis, j'ai 60 ans, mes chairs se sont mises à tomber, à fondre complètement comme une femme de 80 ans. C'est hideux, j'ai des genoux cagneux, c'est affreux. mais j'ai été glorifiée. Mais on compte les côtes. Hein.
Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est édifiant ce que nous raconte Anne Cattel-Pouliquen. Et alors, je le voyais venir hein, tellement, on imagine tellement que c'est exactement comme ça que ça se passe.
On imagine la scène, malheureusement, c'est triste. Hein. En effet, c'est dramatique et puis ça nous interroge collectivement. Ça fait écho au fait qu'on essaie, nous, dans les magazines aussi, de justement essayer de faire en sorte que les femmes se sentent mieux. On a fait un grand sondage il y a un an dans Marie-Claire avec l'IFOP sur les femmes et leur corps. Sommes-nous enfin libérés des stéréotypes ?
La réponse est non.
Eh bien, fail, non. 70% d'entre nous, dans notre sondage, disaient être complexés par leur corps. Et chez les 15-17 ans de notre sondage, on montait à 84%. Effectivement, on souffre.
Je le disais en introduction, il y a un autre facteur, il y a le facteur Ozempic, enfin, qui compte énormément aujourd'hui. Et là, pour le coup, on est plutôt dans les femmes de 50 ans, de 50 ans et plus, qui luttent, évidemment. On lutte toutes contre nos corps, passé la ménopause, parce que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et puis, subitement, on est passé à la pilule miracle. Ça a complètement déstabilisé un peu tout le monde, non ?
Et avec des effets extrêmement délétères sur la santé aussi. Avant même de parler des effets d'image collectifs, mais en effet, ça touche beaucoup les États-Unis. Vous avez dit que la France, Dieu merci, est protégée encore de ce médicament.
C'est compliqué d'avoir de l'Ozempic en France aujourd'hui, contrairement aux États-Unis, avec une fausse ordonnance, etc.
Exactement.
On ne fait pas ça, heureusement.
Exactement, mais on l'a vu lors des Golden Globes, là, qui est une cérémonie du cinéma à Los Angeles en janvier dernier. Il y a une humoriste qui a commencé la cérémonie du cinéma en disant « Bienvenue à la grande soirée Ozempic ». C'est évidemment ironique, ils en font des blagues, mais c'est vraiment pas drôle, puisque c'est extrêmement dangereux. Et puis sur les réseaux sociaux, en effet, ça vient nourrir à nouveau la bête avec des femmes qui pouvaient être de corpulence normale et qui tout d'un coup deviennent extrêmement minces, rentrent dans des très belles robes.
Et comme si c'était facile, parce qu'il suffit d'une pilule miracle pour les faire. Je suis à deux doigts de vous demander, Marie-Rose Moreau, si même les adolescentes vous demandent en fait ce genre de pilule miracle, hein, sérieusement. Parce qu'elles en ont forcément entendu parler.
Oui, ils connaissent très bien. Non, pas tellement quand même. C'est pas une préoccupation de ces jeunes filles. Parce que les jeunes filles anorexiques, elles sont dans un autre monde. Elles sont vraiment dans le monde de la souffrance, de la santé mentale, des questions infinies et du besoin de soins. Donc elles sont pas simplement « je vais perdre quelques kilos pour mon maillot de bain hein. ». C'est autre chose. C'est une maladie.
On a Samia qui réagit au témoignage de Anne et qui dit absolument, ancienne anorexique, dit-elle, j'ai été glorifiée pour ma maigreur lorsque j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, un poids normal, mais je n'ai jamais plus un rapport avec mon corps et mon alimentation, un rapport normal à son corps et son alimentation. Et la ménopause arrivant, ça devient effectivement compliqué, nous dit Samia. Il nous reste très peu de temps. On a le temps pour vous, Philippine, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Rapidement, pardonnez-moi, mais on vous écoute.
Alors, moi, j'ai élevé deux filles. Aujourd'hui, mon aînée a 25 ans et ma deuxième a 15 ans. Je pense que moi-même, j'étais beaucoup dans le contrôle de mon corps et de l'image que je voulais renvoyer. Et j'emmenais mes filles chez le médecin, pour les contrôles annuels, j'ai trouvé ça très difficile d'avoir des médecins qui... venait renforcer la position de surpoids que pouvaient avoir un peu mes filles. Et donc en demandant ce qu'elles mangeaient à la maison, etc., c'était ça équilibré. Et donc, comme si ça avait eu un effet un petit peu pervers et ça avait renforcé finalement ce contrôle permanent de ma part et également de la part du corps médical, en fait. Et je ne crois pas que ça nous ait aidés.
Philippine, merci beaucoup pour votre témoignage. Il y a quelque chose parfois, Marie-Rose Moreau, il y a 5 kilos de trop là. Ou quelque chose. Ce sont des phrases qui sont dites de manière très innocente, qui peuvent résonner terriblement. Et après tout, quand on est en bonne santé, est-ce qu'on est vraiment censé entendre cette phrase, genre ton IMC est un petit peu bas ou un petit peu haut ?
Oui, là, c'est un peu excessif, sans doute, et maladroit. Bah ouais. Mais c'est pas de l'anorexie.
Non, ça, certainement pas. Mais c'est
ni de l'obésité d'ailleurs.
Surtout pas. C'est subitement une gamine qui se préoccupe de son corps alors qu'elle s'en était pas préoccupée avant, uniquement parce que quelqu'un lui en a fait la remarque.
Je trouve que la différence entre quelqu'un qui va bien et qui se préoccupe de, qui devrait pas d'ailleurs. Se préoccuper.
C'est ça.
Et puis la souffrance et la maladie, on est dans deux mondes et c'est ça qu'il faut, il faut, il faut, il faut les soigner, ceux qui vont pas bien.
Écoutez, au téléphone sonne, vous venez comme vous êtes, en tout cas chaque soir. Merci beaucoup à toutes les deux. Vraiment, merci à tous pour vos nombreux appels.